Radio Kapi. Oh, Kapi.
Voici les principales articulations de ce journal des 12 heures sur Radio Kapi. C'est en principe ce dimanche 23 juillet 2023 que les délais de prolongation accordés par la CENI aux candidats à la députation nationale se terminent. Mais quelle est l'ambiance qui prévaut au bureau des réceptions et des traitements des candidatures BRTC dans la ville de Lubumbashi? Jean Gad nous en parle à l'ouverture de ce journal. Il faut investir dans la production et transformation agricole comme solution à long terme pour éviter la surchauffe du marché d'échange. C'est ce que propose le député national Olive Moudekereza, actuellement en séjour de travail à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Comme invité, nous recevrons Jean-Didier Kabongo, expert en matière électorale et point focal du réseau Gouvernance économique et démocratique dans les Haut-Katanga. Il dit constater que la plupart des candidats traînent les pieds alors que les dépôts de candidatures à la députation nationale se clôturent demain. Mesdames et messieurs, bonjour. Sachez tout d'abord que certaines artères de Kinshasa connaissent une ambiance particulière aujourd'hui avec la présence de plusieurs militaires armés. L'armée invite à ces sujets la population de Kinshasa à ne pas céder à la panique. En effet, les militaires de la garde républicaine effectuent en ce moment même une marche d'endurance à travers la ville de Kinshasa. Il s'agit, selon l'état-major commandement de cette unité d'élite, d'un exercice de routine, de conditionnement physique et de dissuasion pour les soldats. Deux sites ont été retenus pour le départ de cette marche pédestre, le rond-point Gaba et l'échangeur de Limété. Des régimes blindés partis du rond-point Gaba traversent Mongafula et Upen jusqu'à leur point de chute qui est le Kanchachi. De son côté, la colonne de Limété se déploie sur les boulevards Lumumba et du 30 juin avant de rallier le Kanchachi. Cette marche est donc pacifique et les habitants de Kinshasa n'ont donc pas à s'inquiéter. Le délai de prolongation accordé par la CENI aux candidats à la députation nationale se termine ce dimanche. Quelle est l'ambiance qui prévaut au bureau des réceptions et des traitements des candidatures BRTC dans la ville de Lubumbashi? Jean Gandou s'y est rendu. Voici son reportage.
À 24 heures de la fin des dépôts de candidature, le bureau de la CENI de Lubumbashi ne désemplit pas. La plupart des candidats se font accompagner par des caravanes et une multitude de sympathisants. Une fois dans les installations de la CENI, les mandataires se font recevoir selon l'ordre d'arrivée pour qu'ils déposent leur dossier. D'autres s'amènent avec des dossiers incomplets et essaient de réunir les documents qui manquent avant d'accéder au BRTC. Pendant ce temps, à l'entrée principale de la CENI, sont affichées les listes des candidatures déjà enregistrées au BRTC avec les identités et les photos des candidats titulaires ainsi que de leurs suppléants. Pour certains mandataires trouvés sur place, les 7 jours supplémentaires accordés par la CENI ont permis de réunir les nécessaires pour être en ordre, mais la tâche n'aura pas été facile. Juvenal Kitungwa, du regroupement politique Action Alternative des Acteurs pour l'Amour du Congo 4AC.
Pour arriver à constituer le dossier, il y a beaucoup de difficultés qui exigent que la CENI puisse donner aux partis politiques et aux regroupements suffisamment de temps pour préparer le dossier afin que ce soit déposé dans le temps. Compte tenu de la complexité des documents à remplir, les formulaires à remplir sont maintenant innombrables et exigent beaucoup de technicité.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et à Mbujimayi, fin hier vendredi des consultations populaires organisées par les gouverneurs des provinces. Selon son initiateur, ces échanges de deux jours avaient pour but de récolter les désidératas de la population susceptibles de faciliter le développement et la bonne gouvernance de la province du Kasaï oriental. Des représentants de plusieurs couches de la population y ont pris part. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le gouverneur de province a de prime abord expliqué à tour de rôle à chaque groupe les projets ainsi que sa vision pour le développement de la province du Kasaï oriental. Patrick Mathias Kabea n'a pas hésité de solliciter l'adhésion de ses administrés. Plusieurs propositions lui ont été faites. Abbé Dieudonné Kayembe, secrétaire permanent du conseil des confessions religieuses.
Nous lui avons demandé d'être actif sur terrain, d'être avec le média, d'être avec le grand et le petit peuple, y compris les confessions religieuses.
Arsène Punga, porte-parole des directeurs des programmes des médias locaux, s'est exprimé en ces termes après la rencontre.
Nous lui avons fait voir que sa parole est un peu rare dans la presse et que pour que nous soyons proches, nous avons besoin qu'il puisse nous accorder des interviews de manière directe. Mais au-delà de ça, nous avons des problèmes de fonctionnement et nous avons besoin que le gouvernorat nous accompagne parce que le service que nous rendons, c'est un service public.
D'après le professeur Chimanga Mulangala de l'Association des professeurs des universités du Kasaï oriental, cette approche devrait être permanente.
que nous puissions nous rencontrer la plupart des temps pour essayer de travailler ensemble, parce que la province, c'est une chose collective.
Signalons que ces consultations sont organisées au lendemain de la déchéance du président de l'Assemblée provinciale. Esther Dalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Il faut investir dans la production et transformation agricole comme solution à long terme pour éviter la surchauffe du marché d'échange. C'est ce que pense le député national Olive Moudekereza, actuellement en séjour de travail à Bukavu dans le sud Kivu. Cet acteur politique, également opérateur économique, s'appuie sur l'exemple du Kenya qui a exporté sur une période de 3 mois 7000 tonnes d'avocats pour une valeur de 64 millions de dollars américains. Olive Moudekereza est au micro de Cynthia Bachizi Nabizana.
L'hémorragie, il faut l'arrêter. Et comment l'arrêter? Il faut investir dans la production. Si nous avons des millions qui proviennent du secteur minier, il faut l'investir dans l'agriculture pour la transformation. Par exemple, voilà les pays comme le Kenya. Pendant 3 mois, ils viennent d'exporter pour uniquement que les avocats 64 millions de dollars en Chine. Imaginez-vous le potentiel qu'il y a en RDC. Nous avons les avocats, nous avons le prêt, nous avons le maracuja, nous avons le mangue, nous avons... Madame, vous parlez des ananas. C'est l'ananas d'Égypte qui est le meilleur au monde. J'ai été en Belgique, j'ai été en France, j'ai été à Dubaï. Le meilleur ananas provient d'Égypte. Mais tout ça, tout ce que nous avons, il faut les transformer en richesse. Il ne faut pas dire que le Congo est riche, mais on n'investit pas. Un pays comme la RDC doit avoir une banque d'investissement, une banque agricole, et avec des taux raisonnables. Si on donne les micro-entreprises, on donne les artisans, on donne les moyennes entreprises, on donne aux femmes un crédit à un taux de 2-3%. Là, pendant 5 ans, 3 ans, 10 ans, vous allez voir comment ce pays va devenir la locomotive économique de la région.
Les députés insistent aussi sur la nécessité de réhabiliter les routes des dessertes agricoles pour faciliter l'évacuation de la production agricole. Par ailleurs, les passagers du bateau Emmanuel III sont finalement bien arrivés hier, vendredi, à Goma. En provenance de Bukavu, ce bateau s'est arrêté en plein milieu du lac Kivu dans la matinée d'hier à la suite d'une panne des moteurs, ce qui a paniqué de nombreux passagers à bord. Les responsables des établissements Silimu parlent d'une panne technique. Ils déclarent avoir dépêché urgemment les techniciens qui ont permis à l'engin de poursuivre son voyage à Goma, seulement avec les membres de l'équipage à bord. Les passagers, eux, ont été transbordés dans un autre bateau venu à la rescousse. Un acteur politique à Goma alerte le gouvernement au sujet des pannes récurrentes que connaissent les bateaux, notamment les bateaux des établissements Silimu. Il lui demande de mener des enquêtes minutieuses à ce sujet. Pour Ivan Simuerai, il ne faut pas attendre qu'il y ait un accident pour réagir. On l'écoute au micro de Denise Lukeso.
Cet événement frustrant devient de plus en plus fréquent dans les secteurs du transport lacustre. Il vous souviendrait que le bateau Emmanuel IV du même établissement d'ailleurs s'éteint très souvent sur les lacs Kivu, plaçant ainsi des passagers dans une frayeur incroyable. C'est pourquoi il est mieux de prévenir que de guérir. Eu égard à cette triste réalité, nous lançons cette sonnette d'alerte aux autorités compétentes afin de commencer à mener des enquêtes minutieuses, car nous estimons que ce sont des signaux qui nous préviennent d'une possible catastrophe dans un avenir proche. Étant donné que cette période de la saison sèche place beaucoup de vagues sur les lacs Kivu, nous estimons que le gouvernement a l'opportunité de prévenir déjà les populations de Goma et de Bukavu des cas de naufrage qui placeront ces familles dans des deuils que nous ne serons à mesure de cautionner.
Pendant ce temps, en Ituri, reprise progressive des activités économiques dans la commune rurale de Mongwalu et dans des entités et périphériques. Plusieurs boutiques ont réouvert et de nombreux opérateurs économiques commencent à regagner cette cité minière. Le bourgmestre de cette commune rurale qui fait ces constats attribue cette situation à la réouverture du trafic sur la route Bunia-Mongwalu et à l'amélioration des conditions sécuritaires dans cette région. Jean-Pierre Bikilisende ajoute que ces retours progressifs de la sécurité permet à de nombreux villages d'avoir accès aux produits de première nécessité. Il est joint au téléphone par Jean-Claude Lokidile.
Il y avait beaucoup de commerçants qui s'étaient déplacés pour raisons de sécurité vers Bunia, vers Nord Kivu, vers Mahagi, Aru. Ils commencent à regagner les coins. Les activités économiques ne font que monter au jour le jour. Jusqu'il y a peu, on fonctionnait presque à un régime de 60% par rapport au temps normal. Des boutiques jadis fermées qui commencent à rouvrir. Donc la situation économique est en train de revenir petit à petit à la normale, comme au régime de l'époque. Depuis presque 2 mois, il n'y a pas eu d'incident majeur. Les miliciens n'ont pas tellement attaqué ces derniers temps dans la région. Et de deux, il y a l'ouverture de la route qui a été vraiment un facteur déterminant pour le désenclavement des Mongols. Vous savez que ça fait près de 10 ans que nous sommes enclavés à Mongol. Alors, du coup, comme ça, la route est réouverte. Ça fait qu'il y a un trafic intense entre Bounia et Gabarère Mongol. Nous sommes en train de sensibiliser les gens à la pacification, à la cohabitation pacifique. Pas de règlement des comptes. On doit se référer à l'État s'il y a des problèmes.
Et puis, le gouvernement provincial du Tanganyika annonce la tenue d'une série d'activités pour protéger le lac Tanganyika. Selon le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, parmi ces activités, il y a l'assainissement de certains endroits du littoral du lac et la protection des zones de frayeur pour favoriser la reproduction des poissons. Jerry Mankata est au micro de Paulin Munanga.
Nous constatons que on jette beaucoup de saleté autour du lac Tanganyika et même dans les eaux. Il y a toujours une interaction entre les matières qui sont jetées dans l'eau et la vie des poissons. C'est comme ça que les poissons sont en train de diminuer. Alors, nous avons commencé cette opération d'abord dans les grandes agglomérations qui sont autour du lac, notamment les villes et les grands villages. Nous avons appuyé en quelques matériels pour l'assainissement de ces milieux. C'est pas dire que tout le littoral depuis Ouvira jusqu'à Mouliro, non. C'est dans les grandes agglomérations où la pression de la pollution est plus importante. Pour la protection des zones de frayères, premièrement, il y a des zones de frayères qui sont déjà dévastées de la végétation. Nous allons commencer par planter certaines espèces de végétaux au bord de ces eaux-là du lac Tanganyika pour que les poissons trouvent les conditions les plus favorables. La deuxième chose, les pêcheurs eux-mêmes connaissent les zones de frayères, bien que ces zones ne sont pas encore balisées. Et nous avons des équipes de surveillance qui vont commencer à circuler dans ces zones de frayères pour empêcher la pêche des alevins.
Bonne nouvelle pour la population de la ville de Bandundu, plus particulièrement celle des quartiers privés de l'électricité depuis plus de 5 mois. C'est à la suite d'une panne technique survenue sur le transformateur de la sous-station aviation. La Société nationale d'électricité SNEL rassure que dans au moins 10 jours, ces quartiers seront à nouveau desservis en énergie électrique. Cette précision est de Prosper Bakuku, directeur provincial de la SNEL Kwilu, qui indique que les travaux de réparation de cette machine tant attendue par la population ont déjà débuté après l'arrivée et des matériels adéquats. Selon lui, c'est une équipe des experts de la société AMI venue de Kinshasa qui est à pied d'œuvre pour rétablir la situation. En attendant, Prosper Bakuku appelle la population à prendre ses mal en patience. Il est dit au micro de Irène Bouma.
Nous sommes ici à la sous-station aviation, là où il y a les transformateurs qui avaient connu une panne depuis le 11 février de cette année. Alors, ce qui est vrai, cela a pris un peu du temps. Nous sommes allés à Kinshasa, contacter les autorités, et au jour d'aujourd'hui, nous sommes venus avec la bobine qu'on avait amenée à Kinshasa pour la réparation, et nous sommes venus ensemble avec les amis de AMI, que la SNEL avait désigné pour faire ce travail-là, sans dire qu'on avait en train de travailler. Et je crois que, comme vous le constatez, les travaux que la population attendait s'exécutent maintenant pour chercher à remettre la situation comme par le passé. Donc, c'est la technique, hein, la technique à ses aléas. Dans la prévision de nos amis qui font les travaux, c'était prévu pour 2 semaines. C'est comme je venais de dire, les travaux ont commencé le même jour que les équipes sont arrivées le matin à la ville, nous sommes arrivés ici. On a commencé les travaux. Aujourd'hui, nous sommes le 2e jour. Je pense que, sauf imprévu, dans 10 jours, ils peuvent terminer.
Au Nord Kivu, la zone de santé d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, enregistre une baisse sensible des cas de rougeole chez les enfants de moins de 5 ans. Des 300 cas pendant les 3 derniers mois, ce chiffre est passé à 30, le nombre d'enfants qui ont développé la maladie depuis ce mois de juillet. Selon Archip Koule Kiusa, l'infirmier chargé de la surveillance épidémiologique dans cette zone de santé, cette situation est consécutive aux 2 dernières campagnes de vaccination de février et mai. Il pense que d'ici quelques semaines, cette épidémie qui a causé la mort de plusieurs enfants sera complètement éradiqué à Oicha.
Actualité internationale.
La Côte d'Ivoire va inaugurer bientôt 2 centres d'accueil pour les réfugiés burkinabés. Jusqu'ici, les civils fuyant les violences au Burkina Faso étaient accueillis dans les communautés locales ou les centres religieux. Ils sont plus de 31 000 à avoir traversé la frontière selon les derniers chiffres du ACR.
L'invité.
C'est en principe demain dimanche 23 juillet que les bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale ferment leurs portes après une rallonge de 7 jours. Le constat fait sur le terrain est que la plupart des candidats traînent les pieds. Pour en parler, Radio Capi a approché Jean-Didier Kabongo, expert en matière électorale et point focal du réseau gouvernance économique et démocratique dans les Haut-Katanga. Il s'entretient ici avec Jean Gandou.
Jean-Didier Kabongo, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui peut bien justifier le fait que les partis de regroupement politique et même les indépendants ont du mal à déposer leur dossier au BRTC à temps?
Ce qui me passe à l'esprit en premier, c'est le fait que les acteurs politiques doutent d'abord sur l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Ces doutes-là font qu'ils ne sont pas prêts à pouvoir affronter les échéances électorales qui s'approchent d'ici là. La plupart veulent qu'il y ait l'ISBA parce que ça leur permet, au lieu de passer par les élections, d'aller s'asseoir autour d'une table, négocier et faire le partage de pouvoir. Il y a d'autres raisons qui sont liées à la loi électorale. Notamment, il y a un problème de coût qui semble être très élevé pour les acteurs politiques. Si ceux qui sont au pouvoir sont en mesure de payer le 1 600 000 exigé pour le dépôt de candidature par siège, il serait difficile pour le nouveau qui veut se lancer dans la course.
Un parti politique, il y a des cotisations, il y a beaucoup de membres. Pourquoi cela poserait-il un problème?
Sur le plan organisationnel et sur le plan logique, le parti politique devrait vivre de cotisations de ses membres. Mais quand nous voyons ce qui se passe dans notre espace géographique, les partis politiques ne dépendent pas des cotisations des membres, mais ils dépendent des acteurs politiques qui sont en train de financer. C'est pourquoi vous verrez, chaque fois qu'il y a le regroupement de la population, ce sont eux qui payent le transport, qui donnent de l'argent, le pourboire et autres pour que les gens viennent. Ce sont les mêmes qui se présentent dans tel parti ou tel parti dès qu'il y a un besoin qui se fait sentir pour nous montrer la popularité. D'autres raisons, il y a l'exigence selon laquelle il faut avoir 60% de candidats par rapport aux sièges qui sont prévus. Sinon, la liste ne sera pas recevable. Et en dehors de ça, il faut également que le document, les titres académiques qui sont présentés doivent être notariés, certifiés conformes. Et ça demande des exercices auprès du notaire et ça nécessite aussi de débourser un peu de fonds. Et aussi, quand il faudra aller déposer la caution devrait être déposée auprès d'une banque répertoriée par la DGRAD. Ça également, c'est un élément qui met aussi en péril le bon déroulement des activités pour le dépôt de candidature. Il y a une brèche qui est ouverte aussi dans la loi électorale qui veut que s'il y a 50% de candidatures féminines, ça permettrait à ce qu'ils soient exemptés de la caution qui est demandée par la CENI.
Mais les acteurs politiques disent que les 50% des femmes, c'est difficile à en avoir.
Le rôle du parti politique est de former et d'informer aussi sa population et lutter pour accéder au pouvoir. Mais quand vous allez le faire, il faut aussi préparer les femmes. Aujourd'hui, il y a des femmes intellectuelles. Quand nous prenons l'espace de 5 ans de la mandature de Félix Tshisekedi, on retrouve qu'il y a plus de 400 partis politiques qui ont été créés. S'il y a des membres, parmi lesquels il y a des femmes. Donc, je crois que ces femmes peuvent aussi être formées à pouvoir exercer aussi le pouvoir public.
D'autres partis et regroupements politiques estiment également que les calculs deviennent âpres à faire quand on sait que il y a très peu de sièges, mais il y a beaucoup de partis politiques au sein des regroupements.
Ça, c'est vraiment aussi un problème qu'il y a au niveau de regroupement politique. Parce que si vous aviez un regroupement qui a 50 partis politiques à son sein, vous devriez maintenant postuler sur 34 sièges. Qui va prendre, qui sera laissé? Il faut d'abord filtrer pour trouver les bons candidats. Mais il faudrait aussi essayer de s'assurer que l'allié, c'est quelqu'un de confiant avec lequel nous pouvons cheminer ensemble. Ça, c'est un problème au niveau des partis politiques.
Et en pareille circonstance, comme la CENI a rallongé d'une semaine, au bout du compte, les gens ne viennent toujours pas déposer leur dossier.
Je crois que la plupart des gens se disent que c'est fastidieux, tout ce qui est comme procédure à suivre pour déposer les candidatures. D'autres acteurs politiques se réservent pour attendre les élections provinciales. Et ils se disent peut-être que ce serait plus simple d'être candidat à la province. Mais aussi, il y a de ceux qui se préparent pour les élections au Sénat. Donc, les sénatoriales sont moins compliquées. Je peux travailler sur 4 députés provinciaux et facilement, je me fais élire sénateur et je suis au Parlement. Voilà au moins le calcul que certains acteurs politiques font. Vous savez que le Congolais, c'est celui qui attend toujours la dernière minute. Mais le conseil que je pourrais donner aux acteurs politiques, c'est de ne pas attendre le dernier jour. Parce que par rapport à la loi, ils doivent permettre au BRTC de pouvoir analyser le dossier qu'ils ont déposé. Et si vous avez déposé à la limite le minimum qui est exigé de 60% des candidatures et qu'il y a une candidature qui ne passe pas, vous voyez déjà que lorsqu'on l'aura enlevé, en ce moment-là, vous aurez des difficultés difficultés pour pouvoir revoir votre liste. Donc, ils doivent avoir cette culture de respecter les temps pour permettre à tout un chacun de faire le travail comme il se doit.
Jean-Didier Kabongo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité Jean-Didier Kabongo était interrogé par Jean Gandou depuis Lubumbashi. Ainsi s'achève cette édition du journal, coordonnée et supervisée par Pele Kipe Lamondo, Jean-Noël Mokondo Yogo, la mise en onde, et grâce à Mzati Masanzi, vous la présentez. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez Pascal Massirika à partir des 13h pour les nouvelles sessions d'information. Excellent week-end chez vous.